le Chief Happiness Officer et le visage jovial de l'entreprise, là où les directeurs des ressources humaines personnifiaient un peu trop la violence de la compétition économique.
Barman, blind test,
merci.
Tu veux quoi, toi?
Si le PDG veut rendre ses employés heureux et que sa motivation, c'est que ses employés soient plus productifs, je ne vois pas le problème. Super même. On a plus de bonheur et plus de productivité. D'ailleurs, la productivité est aussi une bonne chose pour le monde au final.
Le marché économique aujourd'hui crée des pressions psychiques presque sans précédent sur les travailleurs.
Il y a un paradoxe inouï, c'est qu'on s'est jamais autant occupé du bien-être et du bonheur des collaborateurs, et il n'y a jamais eu autant de mal-être dans les entreprises, vous le savez, et ce ne sont pas du tout des arrêts maladie courte durée, ce sont des arrêts maladie longue durée.
Ça veut dire que beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété au travail vont faire appel à des coachs de plus en plus, vont acheter des livres, vont consulter, etc., pour faire en sorte que leur personnalité soit adaptable à ces nouvelles conditions psychiques du travail.
Notre société dans son ensemble, et particulièrement la manière dont on travaille dans les entreprises, encourage les gens à ne pas se montrer critiques, à ne pas faire de remous.
Ça veut dire aussi que cette positivité est un autre nom de la docilité, finalement, de la docilité et de la discipline. De la discipline qui fait qu'on accepte finalement les conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles on travaille, et non seulement qu'on les accepte, mais que par l'alchimie du positivisme, on y voit même des opportunités de se développer et de s'épanouir.
On ne s'attaque pas évidemment aux problèmes beaucoup plus essentiels qui sont les problématiques syndicale par exemple, effectivement, et là le développement personnel tend à prendre la place de ces préoccupations plus sociales qui concernent le temps de travail, les congés payés, etc.
Un Allemand et un Français sur 10 se dit en détresse psychologique au travail. Le quart de la population active américaine a déjà subi un burn-out. L'accroissement parallèle du mal-être au travail et du coaching positif serait le symptôme d'un cercle vicieux où la bienveillance des managers pallie de plus en plus difficilement la violence de la compétition économique. Alors, la question omniprésente du bonheur est-elle vraiment le luxe des pays riches, qui ne connaîtraient plus ni famine, ni guerre sur leur territoire? Ou serait-ce le miroir aux alouettes de sociétés en perte de sens, dans lesquelles le travail et toutes les activités humaines ne sont plus régies que par la quête d'une optimisation perpétuelle?
Le programme de la psychologie positive de Seligman ne s'est pas du tout contenté de s'adresser aux entreprises. C'était un programme beaucoup plus ambitieux qui a essayé de transformer les politiques d'État. Par exemple, Seligman s'est allié à un économiste britannique qui s'appelle Sir Laird et qui ont tous les deux voulu et essayé et changer en fait l'économie en créant tout un domaine qui s'appelle maintenant Happiness Economics.
Now most people would agree that happiness is an important, maybe the most important part of life. But is it so important that we should have a minister in charge of our mental health at the very heart of government?
Well, that's what Lord Layard is calling for. He's a leading economist. He's been.
C'est grâce à cet homme, Richard Layard, qu'est née la Happiness Economics, l'économie du bonheur, et que le bonheur a fait son entrée en politique. Spécialiste mondial du bien-être des populations, Richard Layard est également le fondateur du CEP, le Centre pour la performance économique.
What do we do at the Center for Economic Performance?
Au CEP, la quête du bonheur s'affiche comme l'objectif indiscutable de l'économie.
Professor Lord Richard Layard, the founder of CEP, asked, "How can we make the world a happier place?"
Layard est un personnage intéressant. Il est au sommet de sa discipline depuis très longtemps, depuis des décennies. Mais au cours des années 90, il a eu comme une sorte d'épiphanie, un changement d'attitude envers sa propre discipline.
Il y a environ 30 ans, la psychologie du bonheur a décollé comme une fusée. Une extraordinaire explosion de connaissances. En tant qu'économiste, j'attendais ce moment-là avec impatience. Et quand c'est arrivé, je me suis plongé dans ce domaine.
Richard Layard, en Angleterre. Il débarquait dans les congrès de psychologie positive. Un jour, on s'est retrouvés à Glasgow et il m'a dit « La science devient influente quand les données sont correctes et que la volonté politique est là. » Et il se trouve que maintenant, la volonté politique est là pour travailler sur le bonheur. Tes données sont correctes. Je vais lancer la psychologie positive en Angleterre.
C'est comme ça que nous avons réussi à obtenir ce qu'on appelle une statistique nationale officielle. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le PIB et quelques autres. Mais inclure le bien-être de la population dans les statistiques nationales, ça a été une grande avancée.
C'est David Cameron qui sera le premier à comprendre tout l'intérêt de s'approprier les idées de la psychologie positive et d'intégrer la notion de bien-être individuel à un programme politique. Ancien conseiller de Margaret Thatcher, Cameron incarne alors l'aile gauche des Tories, le parti conservateur anglais. En 2010, alors qu'il est en campagne électorale, la préoccupation pour le bonheur des populations devient le marqueur de cette vision plus sociale du parti. Tout juste élu, David Cameron annonce la mise en place d'instruments pour mesurer le bien-être dans la population britannique. Le recensement national comporte alors des questions inédites, comme par exemple, à quel point vous êtes-vous senti heureux hier ?
Today, the government is asking the Office of National Statistics to devise a new way of measuring well-being in Britain. And so from April next year, we'll start measuring our progress as a country, not just by how our economy is growing, but by how our lives are improving.
Pourtant, ce même automne 2010, David Cameron annonce le plan d'austérité le plus sévère qu'ait connu le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, le gouvernement lance un vaste programme national pour améliorer la santé mentale des chômeurs.
Il y a eu de nombreux exemples de ce qu'on appelait les programmes d'activation comportementale. Pour recevoir leurs allocations chômage, les gens étaient obligés de s'inscrire à ce type de programme de motivation et de pensée positive.
Il y a tellement d'exemples, y compris en Suède, où des consultants et des coachs ont été payés d'énormes sommes d'argent pour entraîner les chômeurs et leur apprendre ce mantra. Le chômage, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème social, c'est un problème qui est dans votre tête.
Aujourd'hui, on pense que pour aider un individu, ce qu'il faut faire, c'est développer du pouvoir d'agir de cet individu. Et donc, plutôt que de lui donner seulement de l'argent, on va également l'inscrire dans des ateliers, dans des dispositifs de job coaching, dans lesquels on va apprendre à cette personne, par exemple, à bien se présenter, à présenter son CV de telle façon à ce que cette personne ne dise plus « je suis au chômage », mais « je suis à la recherche de nouvelles opportunités excitantes ».
Ils étaient forcés de scander des slogans d'estime de soi, du genre « les seules limites sont celles que je me fixe, personne ne s'est jamais noyé dans sa propre sueur, donne-toi ou rentre chez toi ». Ça a été un moment assez sombre de cette sorte de confluence entre l'État, le marché du travail et la psychologie positive.
C'est dans un contexte de crise économique mondiale que le sujet du bonheur des citoyens fait son chemin dans le monde politique.
Si le loisir n'a pas de valeur comptable, parce qu'il est essentiellement rempli par des activités non marchandes, comme le sport ou la culture, on met le critère du productivisme au-dessus de celui de l'épanouissement humain, à rebours des valeurs humanistes dont pourtant nous nous réclamons.
Le rapport Stiglitz, commandé en 2008 par Nicolas Sarkozy, affiche la volonté d'ajouter aux indicateurs économiques objectifs, comme le PIB, des statistiques sur la perception par les citoyens de leur propre bien-être.
Cameron en Angleterre,
Sarkozy en France,
Kevin Rudd en Australie, tous se sont emparés de la psychologie positive et ont dit
«
Faisons plus qu'augmenter le PIB de la France, de l'Angleterre ou de l'Australie. Augmentons le bonheur. »
Les partis de droite, en particulier en France et au Royaume-Uni, après la crise financière, ont cherché à se positionner comme étant, pas forcément anticapitaliste bien sûr, mais comme se préoccupant davantage de la société. Un conservatisme compatissant, comme l'appellerait George W. Bush. Il fallait signaler qu'il y avait un changement de direction après la crise financière, parce que, bien sûr, la plupart des gens reconnaissaient que la crise était la conséquence de la cupidité, de rémunérations excessives en haut de la pyramide et ce genre de choses. Mais au final, je pense que c'était un écran de fumée. C'était un vernis idéologique assez pratique.
Tout politicien qui veut rester au pouvoir ou qui veut accéder au pouvoir devrait concevoir sa politique de manière à maximiser le bonheur du peuple.
L'influence de Richard Layard ne se limitera pas à la politique nationale de la Grande-Bretagne. C'est aussi lui qui initie le désormais célèbre classement mondial des pays les plus heureux. Un classement qui couronne le succès de la psychologie positive et la diffusion de son idéologie.
1. Finland. For 3 years in a row, Finland is the world's happiest country, with the nation's people reporting a strong satisfaction with life and confidence that they live in a place where people take care of one another.
Pour mettre en place ce sondage international, Richard Layard s'est associé aux Nations Unies et à Gallup, cette entreprise de conseil en management, propriétaire de la méthode des forces Clifton.
Beaucoup de responsables politiques pensent depuis quelques décennies qu'il faut dépasser la notion de PIB. Parce que cet indicateur économique traditionnel ne nous dit pas vraiment comment vont les gens. Seuls les gens peuvent nous dire comment vont leur vie.
On a réussi à le mettre en place grâce à l'aide considérable de Gallup, qui mène des sondages à travers le monde et interroge des groupes représentatifs de personnes dans tous les pays pour savoir s'ils sont satisfaits de leur vie chaque année.
Pour moi, l'aspect politique de la psychologie positive, c'est de dire que le premier devoir d'un bon gouvernement n'est ni militaire ni économique. C'est d'augmenter le bien-être des citoyens. Ça me semble être le bon type de politique, et la politique qui prévaudra en période de prospérité.
Sortie des sables du désert en quelques décennies, la ville moderne de Dubaï semble façonnée à l'image du bonheur contemporain.
So open for fun, it's open for happy, open for crazy, even the slopes are open, it's open for...
Comme dans la Florence de la Renaissance ou le Paris des années folles, on peut lire dans ses artifices une vision des aspirations de l'humanité, une image contemporaine du bonheur. C'est ici, aux Émirats Arabes Unis, ce petit pays riche de son pétrole, où la peine de mort par lapidation peut théoriquement sanctionner l'adultère ou l'homosexualité, que le sommet mondial des gouvernements réunit des spécialistes renommés de la psychologie, de l'économie, de la politique et des stars hollywoodiennes pour réfléchir au bonheur de l'humanité.
People ask me what I wanted to be when I grew up. And I said happy.
The worst day of my life had become the best day. And I think that's our job as leaders. is to take the worst days that happen for the people we lead and ourselves and find the deeper meaning that moves us forward.
I want to suggest to you today that well-being can be a goal for the world and that Dubai is leading a curve.
ضيوفنا الكرام, نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن أن الوظيفة الأولى للحكومة والهدف الأسمى لعملها هو تحقيق السعادة. أن يمثل حوارنا اليوم نقطة الانطلاق لرحلة تساهم في إسعاد أكثر من 7 مليار شخص حول العالم.
En 2018, Oud Al-Rumi, la toute première ministre du bonheur au monde, annonce la volonté des Émirats Arabes Unis de se hisser sur les plus hautes marches du podium mondial du bonheur. Cette aspiration exprime toute l'ambiguïté de prôner le bonheur des individus en excluant de cette bonne intention toute remise en cause des inégalités ou des injustices du contexte politique dans lequel ils évoluent. En refoulant les émotions telles que la tristesse ou la colère, les discours sur le bonheur prôneraient-ils l'adhésion implicite à une organisation sociale établie ?
Chaque fois que vous avez des courants théoriques qui visent à aider la personne à mieux s'adapter à son environnement, vous avez le risque d'imaginer qu'il ne fera que ça et qu'il va renoncer par ailleurs à changer le cadre. Dès l'arrivée de la psychanalyse, qui est presque contemporaine finalement de l'arrivée du marxisme dans nos sociétés occidentales, les premiers marxistes disaient « c'est une science bourgeoise ». Ça détourne du combat politique.
La psychologie nous a amené à privatiser la souffrance, à en faire la prérogative de l'individu et à préconiser que la solution à ces souffrances est uniquement individuelle. Alors il y a des souffrances bien sûr qui sont individuelles, je ne le nie pas, mais une bonne partie des souffrances sont aussi sociales. Et la psychologie souvent ne permet pas de développer un langage, disons, plus politique et plus général pour comprendre la nature de cette souffrance sociale.
Un élément qui accompagne le succès du développement personnel et la valorisation de l'action individuelle, cet élément, c'est la dévalorisation progressive de l'action collective.
Parce que les gens sont réalisés que finalement, face à une situation qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils peuvent finalement contrôler à l'intérieur. Ils peuvent finalement trouver les ressources que le don, la motivation pour s'éveiller chaque matin.
Et c'est quelque part la marge de manœuvre que le développement personnel rend au moins chimériquement à tous les individus. Ce qu'on peut toujours faire face au malheur collectif comme individuel, c'est changer de regard sur la situation.
Look around and see what's there. Flowers feel the air. If life appears to be unfair, remember you're lucky to be alive. Don't be sad, don't
I do.